Es ist 21.30 Uhr und es geht weiter auf Pi-Radio mit Radio Sterni.
Das ist aber komisch. Pi-Radio. Zack, zack.
Radio Sterni mit einem guten Anfang für das neue Jahr mit ein kleines technisches Problem. Heute, wir haben noch nicht entschieden, ob wir auf Deutsch oder auf Französisch machen. Werden wir vielleicht so rumspringen, aber das wird ein bisschen gehen um die Polizeistadt. Aber es gibt eins in Frankreich, es gibt eins in Berlin, es gibt überall Polizeistadt, so deswegen wir können springen. Und heute ist Pierre da und...
Ja, Mado ist auch dabei. Oui, et comme on a dit qu'on n'était pas sûr qu'on la faisait en allemand ou qu'on la faisait en français, du coup, je vais traduire aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous souhaiter une excellente nouvelle année et de vous retrouver dans le radio, dans le studio de Pi Radio. Et aujourd'hui, eh bien, on parlera de l'état policier dans toute sa splendeur, le berlinois, le français, enfin, celui qu'on connaît bien.
Et on va commencer par une petite chanson de Asian Dub Foundation et Zebda. Qui est une reprise de je ne sais plus quoi.
Oh yeah. FX. Chop. FX show. Nice. Roll it one time, Mr. DJ. Come down.
So, c'était Asian Dumb Foundation et Zebda qui reprenaient Police on My Back. Je crois que c'est des Clash, me semble-t-il.
Je n'en ai pas la moindre idée.
J'ai pris cette chanson parce que en ce moment, dans le quartier où j'habite, où on habite, eh ben, c'est un petit peu ça. Dès qu'on sort de chez soi, on a la police sur le dos. Et on court.
Ou c'est eux qui courent, ça dépend.
Mais il y a des contrôles policiers au faciès à peu près toute la journée, devant les maisons collectives alternatives de la scène de gauche, les House Project. Et parce que la rue, le quartier a été décrété par la police comme étant une zone dangereuse. Et le sénateur chargé de l'intérieur de l'État de Berlin a décidé qu'il allait faire la guerre à l'extrême gauche en mettant la pression. Donc voilà, c'est un peu le thème de l'émission de ce soir.
Ouais, en fait, c'est intéressant. C'est un quartier qui était traditionnellement un quartier de maisons occupées, qui ne sont plus des maisons occupées depuis longtemps. Il n'y en a plus tellement, mais maintenant, c'est un quartier assez chiquimiki à Berlin. Et il a été c'est un problème qu'il y ait quelques îlots de résistance qui défient les autorités. Mais je pense qu'il y a aussi quelques politiques, y compris ce fameux monsieur Henkel, qui en a fait une affaire vraiment... personnel, en fait. Bon, moi, j'ai une interprétation, et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a plusieurs gens qui ont une interprétation sur ce thème. On en reparlera peut-être plus tard. Pourquoi cette situation s'est développée de la sorte, et pourquoi dans les dernières semaines, les milieux de gauche sont vraiment persécutés par les autorités, on peut le dire comme ça. Mais on va peut-être plutôt d'abord écouter un peu de musique, ou...
Eh ben, on pourrait commencer par... Ah, c'est difficile hein, avec un choix. Mais moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai passée, je pense, dans la toute première Radio Sterni, qui est un classique de Bob Marley, mais qui me rappelle toujours quand je sors là, les derniers jours de la maison, c'est « Burning and Looting ». Donc c'était Burning and Looting de Bob Marley. Ouais. Et j'aime bien cette chanson parce qu'il dit je suis sorti de chez moi, j'étais dans un couvre-feu, il n'y avait que des gens irreconnaissables en uniforme de brutalité. Et c'est un petit peu ce qu'on voit dans Friedrichshain, en tout cas autour de la Riegerstrasse les derniers temps. Moi, j'étais un petit peu absent, mais peut-être Madou, tu pourrais nous dire un petit peu comment c'est la vie de tous les jours dans le quartier depuis le début de l'année ou depuis même avant. Hein, ça a commencé cette Gephardt zone, cette zone dangereuse.
Ça a commencé l'année dernière déjà. Ouais, comment ça a commencé ? Ah, ça a commencé. Le prétexte est un peu douteux. On dit que il y a eu des actes criminels qui ont été, comment on dit en français ?
Commis.
Commis, merci. Pas loin de chez nous. En fait, il faut savoir que depuis des années, c'est un lieu que l'on appelle un lieu... Le quartier où on habite est un lieu qu'on appelle un lieu à criminalité augmentée,
élevée,
ouais, qui a été décrété comme ça il y a quelques années déjà par la police. Puis soudain, il y a eu l'apparition d'un nouveau terme, à savoir zone de danger. C'est pas officiel, c'est pas publié, c'est une espèce de mesure interne de la police berlinoise avec un plan en 5 points d'intervention dont on connaît pas le détail mais dont on sait que ça veut à peu près dire que la police fait ce qu'elle veut. Et concrètement, ça veut dire depuis le mois d'octobre, des contrôles, d'abord beaucoup de présence policière, mais ça y en avait déjà avant, mais surtout des contrôles de personnes qui passent dans la rue en fonction de leur faciès et des habits qu'ils portent. Surtout, ça c'est un test que j'ai fait, parce qu'en fonction du manteau que je porte, je suis contrôlée ou pas quand je me balade par là. Et contrôle, donc ça veut dire contrôle de papier et fouille au corps, avec éventuellement parfois des comment on dit quand t'es encerclé par la police dans un casse.
Un encerclement, je crois.
Un encerclement, où tu te gèles les miches dans le froid, comme ça, au milieu de la nuit, pendant des heures, et où, à la fin, on te donne une interdiction de séjourner dans ton propre quartier pour les deux prochains jours sans raison. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Donc, des mesures de police assez arbitraires, à savoir que devant certaines maisons, il s'agit vraiment éventuellement pas pouvoir aller à la boulangerie d'en face sans être contrôlé à l'aller ou au retour. Ça veut dire que le samedi matin, pour aller chercher ton pain à la boulange, bah, t'en as peut-être pour 3 heures. Et quand c'est tous les jours, ça pèse un peu au bout d'un moment. Donc mesure de comment on dit, usure des nerfs des gens qui habitent...
D'intimidation aussi, un petit peu. Mmh. Et c'est, provoquer un climat de terreur dans le quartier au niveau policier quand même, parce que ça a quand même cet effet... de se dire, oh, est-ce que je sors de chez moi ? Est-ce que si je sors pour aller juste dans le bistrot à côté pour boire une bière, je vais me faire contrôler, ils vont m'énerver, je vais me les geler. Et puis les flics, on les aime pas, donc on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de leur parler. Donc si on sait qu'à l'aller ou au retour, on va se faire contrôler, ou à l'aller et au retour, on va se faire contrôler et être face à l'arbitraire de la police, finalement, ça incite soit à péter un plomb, soit rester planqué chez soi en se disant « Oh, ben, moi, ça a un petit peu cet effet. » Et puis l'autre effet, c'est que je ne m'habille plus en noir. J'ai peur, c'est terrible. Hein.
Mais ça marche, ça marche vraiment.
J'ai peur de m'habiller en noir maintenant, c'est pull rose
vraiment.
Tous les jours. Hein.
Parce que, parce que moi, j'ai au choix deux manteaux. Il y a mon manteau normal, un manteau d'hiver tout simple, un blouson à capuche noir qu'on peut trouver dans n'importe quel endroit où on achète des manteaux. Puis j'ai un manteau rouge sans capuche. Et selon lequel je porte, je suis contrôlée ou pas. Ça, c'est quand même un phénomène assez intéressant. Mais blague à part, il se produit aussi un phénomène, c'est que pour les personnes illégalisées par l'État, à savoir les réfugiés, les gens sans papier qui habitent par chez nous, par exemple, ça produit aussi ce phénomène que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux à certaines heures de la journée, en particulier du jeudi au dimanche. Et quand il se met à faire sombre, ce qui veut dire à partir de 16h en hiver à Berlin, Voilà, on ne peut plus sortir de chez soi. Donc c'est quand même des conséquences assez réelles sur la vie de tous les jours, plus le bruit bien particulier des diesels de leur camion de police qui tourne toute la nuit sous les fenêtres. Ça, je ne sais pas si vous avez envie d'essayer, je vous le déconseille, parce que en matière d'usure nerveuse, ça marche aussi vachement bien, c'est juste insupportable.
Moi qui habite au cinquième étage, c'est plutôt l'hélicoptère en stand-by au-dessus qui est assez ennuyeux. Mais bon, on pourrait peut-être écouter une petite chanson locale de Geiger Zeller, qui a composé, donc qui est un activiste, on va dire, de la rue.
Activiste, violoniste. Geiger en allemand, ça veut dire violon.
Et qui a composé une petite chanson qui s'appelle Rigueur im Wandel, donc la rigueur de Rigorstrasse en changement.
Rieger am Wandel. 15 Jahre nach der Räumung der besetzten Häuser weichen jetzt die übrig gebliebenen Mietshausprojekte der immer gleichen Mischung aus teurer Wohnung oder Wohneigentum. Ziehen ein und wollen Ruhe. Schließlich haben sie ja bezahlt. Und die Riga? Mein Zuhause? Lebe ich 14 geräumt. 4000 Bullen. Für 10 Leute im Haus. Seitdem ist viel passiert. Entstanden. Und der Kampf geht weiter.
Ja, der Kampf geht weiter. Le combat continue. Mais les attaques continuent aussi. Peut-être que tu pourrais... un petit peu en parler, parce que là tu as décrit un petit peu genre la vie de tous les jours, les contrôles, etc. Mais il y a eu quand même un petit point fort.
Ouais, alors il s'est passé qu'à un moment la semaine dernière, il y avait un flic tout seul, un policier, pardon, tout seul au milieu de la zone de danger, c'est quand même assez un peu, enfin quand même bizarre quoi, on fait pas ça normalement. Bon, en fait, qui a été attaqué par quatre méchantes personnes. Non, en fait c'est pas vrai, les quatre personnes elles disent que c'est lui qui les a attaquées, ce qui est un peu étrange parce qu'un flic tout seul qui attaque quatre personnes en pleine journée comme ça au milieu de la zone de danger... Oh, mais d'un seul coup, il appelle les renforts et ça va très très vite. Et bon, enfin bref, 10 minutes après, on entendait à la radio, un policier a été attaqué dans la zone de danger, ça va pas du tout, il faut faire quelque chose. Et paf, le jour même, des mesures qui prennent quand même quelques temps à organiser étaient organisées super méga vite. Et eh bien, une maison qui a été décrétée, le centre d'organisation des opérations extrémistes et terroristes de gauche était attaqué par la police. Alors, il faut peut-être situer un peu le contexte, c'est un peu compliqué. Bon, il se trouve qu'il y a depuis quelques années un type qui se baladait dans notre quartier, dans les milieux de gauche, qui est un type pas très... Il est un peu zinzin, bon, faut bien dire ce qu'il est. En fait, il avait fait quelques bêtises, il s'est fait choper par la police et il a été retourné. Et il était donc une sorte d'espion de la police, qu'on appelle un agent double, je crois, qui se baladait dans nos milieux et qui a quand même réussi à vendre des articles... Enfin, à cause de ce type-là, il y a quand même quelques personnes qui sont en prison. Il se balade entre Hambourg et Berlin, ce monsieur. Et il a donc vendu des tas d'infos quand même pas très cool à la police. Et... il a mitonné un peu que le bar qui est situé en bas de la maison de la Riegerstrasse 94 serait le centre d'organisation l'activité de gauche. Bref, en fait, il y a eu une espèce de fixette qui s'est développée autour de cette maison et il a été dit « Oh, mesure répressive !» ce jour, donc mercredi dernier, où ce fameux policier a été attaqué par des gens qui se sont ensuite poursuivis par ce policier en furie, réfugiés dans l'entrée de l'immeuble de la Riegerstrasse 94, justement, qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et le sénateur de l'Intérieur avait annoncé en grande pompe le matin même que de toute façon, il allait falloir sévir. Et donc, vers le soir, bon, dans la journée, c'était assez tendu, et vers le soir, une information a circulé, invitant les gens à se solidariser, car la maison peut-être allait bientôt être visitée par la police. Et il se trouve que, j'ai reçu cette information par une amie qui n'habite pas là, mais qui est assez au courant de ce qui s'y passe, parce que c'est une voisine. Et donc, nous y sommes rendus pour être là, parce que c'est pas très sympa de laisser les copains seuls dans ces moments-là, d'autant que... il était possible que non seulement la police régulière, mais aussi les actions... Alors, il y a le commando spécial d'intervention, je ne sais pas comment ça s'appelle
spécial
en français.
Einheitskommando, c'est un peu comme le... comment il s'appelle ?
GIGN ?
Oui, c'est un petit peu ça.
L'équivalent du GIGN français, voilà, ils débarquent. Et alors, quand eux débarquent, autant dire qu'il n'y a rien à chercher sur place, parce que ce n'est pas des marrants. Mais quand même, on voulait y aller. Bon, puis on était devant la porte, on attendait, et on se disait, bon, soit on entre dans la maison, soit on va se balader, parce qu'on n'a pas très envie de tchatcher avec les gars du GIGN, justement. Puis d'un seul coup, paf, on est devant la maison, on entend l'hélicoptère qui arrive et là, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il y a des colonnes de douzaines de flics qui sont débarqués des deux côtés de la rue en courant et qui, ce qui n'est pas très classique, sans préavis, nous sont tombés dessus et nous ont tout simplement tabassés. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, j'avais encore jamais vu ça. Ils nous sont tombés dessus en courant, avec l'inertie, ça crée quand même une onde de choc assez violente. Et on s'est fait tabasser sans préavis, donc par la police, on s'est fait dégager de là. Et ensuite, ils ont bouclé tout le quartier et ils sont entrés dans cette fameuse maison. Alors, il était question d'une perquisition, la raison pour laquelle le GIGN venait aussi avec toutes les équipes techniques.
C'est pas une perquisition, en l'occurrence. Puisque les perquisitions ont besoin officiellement d'une décision de justice.
Voilà, alors c'est la raison pourquoi je disais il était question d'une perquisition. Or, en fait, c'était illégal parce qu'il n'avait pas de papier de perquisition. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Avis de perquisition, je ne sais pas quoi, le papier qui rend légal une perquisition. Ils sont donc entrés sans ce papier dans la maison. C'était donc illégal. Ils n'ont pas laissé les avocats et les avocates de la maison entrer quand ces personnes sont arrivées pour essayer d'entrer, pour qu'au moins la perquisition qui n'en était pas une ait lieu en présence des avocats de la maison. Et ils ont proprement dévasté la maison. Alors, dévasté la maison, bon, ils cherchaient soi-disant des objets dangereux et des preuves de crimes de je ne sais quoi, d'organisation terroriste des habitants de la maison, qu'ils n'ont pas trouvé parce qu'il n'y en avait pas. Ils ont enfermé les habitants de la maison dans une pièce et ils ont pendant ce temps-là dévasté toute la maison. Ce qui veut dire qu'ils sont entrés dans les chambres, qu'ils ont tout pété, à savoir des choses qu'ils avaient... Enfin, bon, ils ont pété les miroirs, ils ont dispersé les morceaux dans les lits, ils ont cassé les bibliothèques. Ils ont pissé partout. Il faut quand même. Alors ça, c'est quand même une information que j'aime beaucoup.
Ils ont dessiné des bites sur les murs.
Celle-là, je ne l'avais pas. Mais je...
Dis Twitter.
Pisser partout, je trouve ça intéressant. Ils ont pissé systématiquement à côté des chiottes. Il faut quand même savoir... Alors là, moi, je suis désolée, mais il faut quand même savoir que ça, c'est des méthodes nazies. Hein. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont malheureusement un peu chié le coup parce qu'en plus, ils sont entrés chez des voisins qui n'avaient rien à voir. Ils ont terrorisé les gamins. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Mais ils ont aussi, par la même occasion, systématiquement... torturer les habitants de la maison, tête contre les murs, prises, bon, y a des prises de torture aux articulations, enfin ils ont fait du beau travail et le tout, bon c'est pas pour justifier ce qu'ils avaient fait si ça avait été légal, mais en plus c'était illégal, bref ils ont déployé la grosse artillerie. Ce qui est explicite c'est qu'il s'agissait pas de faire quoi que ce soit de légal ce jour-là, il s'agissait vraiment de terreur et j'ai trouvé ça intéressant parce que a posteriori je trouve que ça restaure d'un seul coup le sens historique et un peu oublié du mot terrorisme, parce qu'il faut quand même pas oublier que le mot terrorisme a été développé pour qualifier la terreur d'État contre des minorités contestataires. L'emploi moderne et contemporain du mot terrorisme qu'on a maintenant, il est dérivé, il a été complètement retourné parce que le terrorisme à l'origine, c'est un mot qui a été trouvé pour qualifier la violence d'État quand même, la terreur d'État. Et c'est précisément ce qui a été déployé ce jour-là.
Et juste pour résumer, c'est qu'il y a eu donc cette prétendue attaque par des méchants autonomes, disent-ils, d'un policier qui mettait juste des amendes aux voitures mal garées. Ça, c'était la version de la police. Hein.
C'est un peu bizarre parce que c'était même pas une pervenche. Hein. C'était un flic de service.
Suite à quoi, a priori, c'était plus une bousculade, si on en croit les témoignages. Quoi, rien de très méchant. Et donc, ils sont rentrés dans la maison avec... l'argument de chercher des objets dangereux qui pouvaient servir d'armes, alors que cette altercation, j'ai des petits problèmes de langue, n'a impliqué aucun objet contendant. Hein, mais donc, ils sont quand même rentrés dans la maison pour chercher des objets contendants.
Contondants.
Je ne sais plus parler français non plus. Et ils sont ressortis avec du matériel de bricolage, des clous, mais surtout, toutes les 2 tonnes de briquettes de charbon qui servent à chauffer toute la maison pour l'hiver. Et il faut savoir qu'il fait moins 15 à Berlin en ce moment. Quoi.
Ils ont fourré le charbon repartant mesure... On a de terreurs supplémentaires.
Parce qu'avec du charbon, on peut allumer par exemple un feu de cheminée, ou bien on peut l'envoyer sur une force de répression de l'État. Mais ça s'explique parce que nous sommes tous des terroristes. Et ça, je proposerais de l'écouter maintenant.
Eh ben, allons-y.
Wir sind doch alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht einer gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na, was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist denn keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe, aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat den Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen. Denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwulen. Denn um die ist nicht schad. Aber nicht einer gegen den Staat. Weißt du, was das heißt, Polizeipräsident? Weißt du, was das heißt? Infanterieregiment. Was heißt Kommissar, Kabinett oder Bundeskanzler? Macht heißt es. Was heißt Parlament oder Bürgermeister? Immer nur gib Acht. heißt es, andere bestimmen, ob du stirbst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wonach du strebst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst deinen Titel und dein Zertifikat. Dann bist du ein Starker und fort mit den Schwachen. Und außerdem sagst du, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht leben ohne den Staat. So lebst du mit dem Staat. Das ist bequemer. Du lernst die Hymne und den Badenweiler Marsch. Du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gehst in Pension und denkst, ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen. Wir nennen's nur anders. Das ist es ja grad. Doch wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts. Aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja fad. Nur gegen eins nicht. Gegen den Staat.
Ja, wir sind alle Terroristen. Nous sommes tous des terroristes. Sur ma playlist, il y a écrit Georg Kreisler. Je crois que c'est lui qui l'a composé. Mais a priori, c'était quelqu'un d'autre qui le chantait. Mais ça rentrait bien avec le thème. Hein, ouais. Quand même, pour une émission pas préparée, on a des super...
Ah, comment pas préparée? mais... Dûment réfléchi et anticipé depuis au moins une semaine. Bref.
Mais ce qu'on peut dire, tout à l'heure, tu as évoqué juste un petit point, j'aimerais bien y revenir, c'est
le petit point.
Que quand la police est entrée donc, dans le 94, mercredi dernier, c'était mercredi ?
C'était mercredi, ouais, c'était il y a 8 jours. La première fois, mais on va en reparler.
Qui sont aussi entrés donc, dans un appartement du rez-de-chaussée. Tu pourrais un petit peu décrire parce que c'est...
Oui, alors, le lendemain, il y a eu une conférence de presse pour expliquer ce qui s'était passé sur la place au coin de la rue d'à côté, pardon. Et là, une maman est intervenue avec ses 3 enfants. Figurez-vous qu'en fait, la police sont entrés dans les appartements du rez-de-chaussée situé au 94 qui ne font pas partie du House Project. Ils ont pété la porte. Et ils ont terrorisé les 3 gamins qui étaient là, qui sont en fait 3 ados. Les parents étaient juste partis à la
boulangerie.
À la boulange, voilà. Boulange, Spéti, c'est un petit magasin qui est ouvert le soir, qui vend aussi des boissons. Ils étaient juste en face, là, au coin de la rue. Et les enfants, terrorisés par la police, qui commençaient à faire la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire... des dommages, créer des dommages dans l'appartement, on donc écrit des SMS aux parents, qu'est-ce qui se passe et tout. Et les policiers ont empêché les parents de rentrer dans leur appartement pendant assez longtemps, donc ils étaient assez furax. C'est pas des gens particulièrement politiques, mais ils étaient bien remontés. Et je me suis dit, bah très bien, parce que les gamins, ça va leur laisser un bon souvenir de ce que fait la police en réalité dans la vie. Voilà. Et ils sont intervenus, ces gens-là, à la conférence de presse le lendemain, pour raconter ce qui s'était passé. Et je pense que... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de riverains qui se sentent aussi de ce fait-là un peu concernés, même quand ils pensent que peut-être il fallait une enquête de police, ce avec quoi on peut être d'accord ou pas d'accord, mais de toute façon, ça n'avait rien d'une enquête de police qui s'est passée ce soir-là.
Mais ce qui s'est passé ensuite, quelques jours plus tard, c'est que quoi, le lendemain d'ailleurs, la police est entrée dans l'immeuble à côté, le 95.
Ouais, les jours d'après, ils sont rentrés. Alors, parce qu'en fait, maintenant, comme c'est la fameuse zone de danger, ils ont le prétexte, ils ont le droit d'entrer sans perquisition dans les cages d'escalier sur les toits des maisons voisines. Donc, ils ont fait ça. La maison d'à côté de cette maison-là est dans la Liebigstrasse, qui est une perpendiculaire directe au coin de la rue. Ils sont entrés aussi dans 3 maisons. Et dans la Samariterstrasse, qui est une autre perpendiculaire où il y a aussi un house project, ils sont entrés, ils sont montés sur le toit, ils ont bousillé l'antenne satellite. Je crois même qu'ils l'ont embarqué. Ils l'ont coupé à la scie circulaire. Voilà, ce qui a pour seule conséquence d'emmerder les gens dans leur vie quotidienne. Mais à part ça, aucun autre intérêt. Non, mais enfin, bon, vraiment, voilà, c'est juste gratos, quoi. Mais oui, dans les jours suivants. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait le dimanche? Eh bien, rebelote, le dimanche, ils ont commencé par encercler et bloquer pendant 2 heures. Alors dimanche, il faisait froid, il faisait moins 5. Hein. Il faisait très beau d'ailleurs. Il y avait une invitation de la maison qui avait été touchée par la perquisition à se montrer solidaire et à venir organiser un café couronne. Ça, c'est très très allemand. C'est la tradition du dimanche d'aller manger un bout de gâteau et de boire un café au lait l'après-midi. Et bah figurez-vous qu'ils ont encerclé dans la rue ces dangereux criminels armés de gâteaux et de, et de thermos de café et qui les ont bloqués pendant des heures. Et que même au bout d'un moment, comme frustrés par cette situation, ils avaient commencé à manger eux-mêmes les gâteaux et à faire un café couronne dans la rue devant la maison. Et bien ils ont interdit la consommation de gâteaux et ils ont réquisitionné les gâteaux. Et le soir, eh bien, rebelote, ils ont évacué tout le quartier et ils sont retournés dans la maison qu'ils avaient envahie mercredi. Et ils y étaient seuls, les habitants n'étaient pas là, ils avaient à raison évacué les lieux. Ils n'ont pas non plus, cette fois-ci, laissé entrer les avocats de la maison. La seule différence, c'est qu'ils avaient un avis de perquisition. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur de la maison, à part qu'ils ont tout pété pour une deuxième fois. Ils ont rebousillé la porte qui avait été réparée entre-temps. Voilà, en fait, ça n'arrête plus depuis.
Ouais, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils ont pris une excuse officielle qui a été ensuite démentie par une vidéo qui a été publiée sur Internet. À savoir, ils ont dit les habitants nous ont envoyé sur les policiers un sac de 5 kilos depuis la fenêtre. Et donc, ils ont fait très vite une déclaration et ils sont rentrés dans la maison. Et ensuite, il y a une vidéo qui a montré que les flics étaient en train de fouiller les poubelles dans la cour, que des habitants leur ont dit « voulez plus de poubelles ?» on dit explicitement « on ne veut pas vous toucher avec », on lançait à 10-15 mètres des flics un sac poubelle par la fenêtre, juste histoire de se moquer d'eux, quoi. Et ça a été donc la raison pour la perquisition qui a suivi. Et ouais, c'est quand même un petit peu emmerdant puisque les déclarations de la police ont été un petit peu trop hâtives et ensuite, comme la vidéo est venue démontrer que leurs explications étaient un petit peu mitonnées, hein, ça permet de se demander aussi si les premières explications sur l'agression du pauvre policier n'est pas aussi légèrement mitonnée. Mais bon, je ne voudrais pas prétendre que la police ment. Voilà, c'est pour faire un petit résumé de la vie de quartier chez nous.
On se marre comme des petits fous.
Ouais, on se fait une petite pause avec un petit peu de musique et puis on continue en allemand sur la France.
Qu'est-ce que t'as en magasin?
J'ai Kenny Arcana, quelle question.
Alors,
la rue nous appartient.
Colonisation trop subtile pour vraiment le peuple voir. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. Ces mêmes bourreaux qui viennent taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides. Donc pour prendre de la valeur, ça expulse des familles, des vieux, des enfants. Entre cartes de CRS et caméras de surveillance, quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Virer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de jeunes sous le préau écrasé. Mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid. Dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Ils leur volaient le monde. qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient.
Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la traque, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, coups et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
C'est le front des sans-voix. Le front de ceux qui ne veulent plus se laisser faire. Fascisme institutionnel, voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain, contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient, et parce que nos vies nous appartiennent.
C'était Kenny.
Oups.
C'était Kenny Arcana, la rue nous appartient. Et maintenant, on va continuer en allemand pour parler un petit peu de l'état d'urgence en France. Und jetzt wir. Wechseln wir mal zu Deutsch mit meinem ausgeübten Akzent, um so ein bisschen so von die Polizeistadt so über den Rhein so zu sprechen, weil irgendwie in Frankreich gibt es so eine Polizeistadt, aber das ist ganz offiziell in ganz Frankreich, das heißt État d'urgence.
Notzustand. Eigentlich Deutsch würde man Ausnahmezustand, aber das ist halt irgendwie so wortwörtlich übersetzt Notzustand.
Ja, und es gab auch so Begegnungen von
Besichtigungen. Ja, Durchsuchung. Ah, Hausdurchsuchung, jetzt habe ich das Wort.
Aber ich glaube, offiziell in der polizeilichen Sprache, so in die Pressemitteilung und so, das ist als Hausbegegnung.
Begegnung, aber warum?
Ja,
denn?
Frag mich nicht.
Eine Rencontre de Maison.
Naja, also das ist so, dass sie besuchen einfach die Häuser. Und in Frankreich, in Paris, es gab so einen Squad so vor der COP 21, also diese große Konferenz of Party über der Klimawandel, was es gab im Dezember. Also das war eine große Sache. Es gab diese Attentat im November, dann sofort diese Ausnahmezustand und als erste Entscheidung, so bevor alles andere, das war, alle Demo für die COP 21 werden verboten in Paris, weil es ist zu gefährlich. Und es gibt natürlich Leute, die seit Jahren darüber arbeiten, so eine Mobilisierung dagegen zu machen. Also die haben gearbeitet. Und davon so böse Anarchisten oder Leute, die Öko-Terroristen, Terroristen, der Wort ist wieder da. Natürlich könnte...
Es gab sogar grüne Dschihadisten, so, die hatten sich die Presse muss immer neue Wörter erfinden, ne? Das unterhält so ein bisschen Suspense oder ein bisschen Aufregung, das ist immer ziemlich cool.
Naja, auf jeden Fall, unsere... ich würde sagen, Kollege, das wäre fast frech. Unsere Idole von Megacombi haben ein sehr schönes Reportage oder Témoignage, wie sagt man das?
Zeugnis?
Ja, darüber gemacht, weil
nicht Zeugnis.
Eins wohnt in einem Squad, also ein Besitzeshaus in Paris. Die wurde so kurz vor die COP 21 von der Polizei besucht. Auch ziemlich mit Großaufgebot und so, weil sie könnten eventuell Leute von der linksradikalen Szene für die COP 21 so hosten. Und das wäre untolerierbar in der Zustand von Frankreich, sodass Leute protestieren gegen Kapitalismus, wenn alle Leute still sein müssen und folgen ihren François Hollande.
Führungsfigur. Naja, also es ist halt so, dass es jetzt nicht nur in Berlin so ist. Übrigens, das ist anscheinend mit Kontrollen und so auch nicht nur in Friedrichshain, habe ich heute erfahren, sondern auch zum Beispiel in Kreuzberg ist es auch gerade ziemlich hetzend, aber gut. Jedenfalls in Frankreich ist es so, dass seit den ersten Attentaten, ne? Also nach Januar war es halt irgendwie schon so eine super Gelegenheit gewesen für die Polizei, irgendwie die linke Szene so zu terrorisieren. Und aufgrund von der nationalen irgendwie so Union so drum zu beten, dass alle Leute aufhören, sofort irgendwie so staatskritisch zu sein. Und jetzt seit dem 13. November ist es einfach so, dass faschistische Maßnahmen durchgesetzt werden und dass ohne Begründung die alle mögliche so kritische Aktivisten auch irgendwie verfolgt werden. Also Hausdurchsuchungen wie gerade in Berlin sind halt überall gewesen in Frankreich, ne? Also bei Linksaktivisten und in besetzten Häusern, also in tatsächlich besetzten Häusern, was ist, also weil in Berlin gibt es keine, aber in Frankreich sind es immer noch besetzte Häuser. Genau, also das ist, die Lage ist gerade auch echt ziemlich anstrengend auf der anderen Seite der Grenze.
Ja, und
Salut les copains d'ailleurs, hein. En passant.
Ja, es gibt so ein altes französisches Lied von 68, die ich sehr gern so vorspielen möchte. Das heißt « À bas l'état policier ».
Runter mit dem Polizeistaat, sowas. Ja,
das
Bullenstaat.
Das ist von, ich habe ein Loch, aber ich sage euch danach.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. À bas l'état policier, à bas l'état policier, à bas l'état policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Bon, aber l'état policier, nieder mit dem Bullenstaat.
Dominique Grange.
Genau. So, ja, also am Ende bleibt eines übrig und sicher. Wir lassen uns irgendwie nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht nerven. Doch, sie nerven schon ganz schön. Aber trotzdem, ich glaube, die haben nur irgendwie geschafft, dass die linke Szene und Häuserszene in Berlin einfach solidarischer geworden ist, glaube ich. Und die Menschen Bock haben, irgendwie so mehr zu unternehmen und vielleicht auch härter an die Gestaltung einer besseren Zukunft zusammenzuarbeiten. Jedenfalls wird zuerst trotzdem protestiert, und zwar am 6. Februar um 16 Uhr und dann 17, also 16 Uhr Kundgebung und pünktlich 17 Uhr irgendwie Demo los. Und jetzt an der Ecke von der
Straße.
Genau, danke schön. Vom Rummelplatz in Friedrichshain, allerdings Südkiez, geht's los. Das wäre cool, wenn wir da irgendwie ihr da zahlreich erscheint. Genau. Und dazu.
Also, wir können sagen, das war die Demo, die geplant war für die Erinnerung an die Räumung von der Liebig 14, die in Februar 2011.
Genau, traditionell am 2. Februar wurde die Liebig 14 geräumt und traditionell gibt es immer so eine Zombie-Demo so in Erinnerung. Dieses Jahr wurde es halt irgendwie zusammengepackt und es ging drum, also die Demo war schon geplant, bevor die Bullen die Riga 94 jetzt verwüstet haben. Jetzt geht es um beides, aber es ging ursprünglich um gegen diese Gefahrenzone, so Situation zu protestieren und laut zu werden und auch in den anderen, also in der Umgebung halt, die Menschen auch zu informieren, was da abgeht.
Ja, also und viele Informationen kann man kriegen auf Twitter, auf der Account von Rigger_United. Da gibt es echt viel Info, oder mit der Hashtag Rigger, der so immer so trennt. Wir benutzen der auch für Radio Sterni.
Ach so.
Vielleicht haben wir Zuhörer, die uns so entdeckt haben.
Sonst immer auf radiosterni.qsdf.org. Wir sind immer noch da und wir bleiben noch lange da.
Ich sehe einen gefährlichen Gegenstand gegenüber. So, jemanden hat probiert, ein Mikrofon anzuzünden.
Achtung, wir kriegen bald eine Hausdurchsuchung.
Ja, wir warten auf die SEK. So, sie kommen bald und wenn sie ankommen, spielen wir noch ein Lied. Aber ja, so, das war Radio Sterni auf Piradio. Nächste Sendung ist in vier Wochen. Donnerstag. Inzwischen piradio.de und ja, wir haben noch so ein paar Sekunden und wir werden uns verabschieden mit einer Klassik von die Berliner Szene, der Horror-Song von Tonsteine Scherben und ja, das ja, 10 leere Flasche Wein könnte schnell 10 Molly sein, sagte die Polizei damals bei der Hausdurchsuchung. Das erinnert ein bisschen an Sache. Hein?
Frechheit.
So, tschüss.
À la prochaine.
À bientôt. Ciao.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen Sie erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxus-Wohnung und das Methanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Es ist 22:30 am Abend.